Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Vivante Église, où nous allons aujourd'hui nous intéresser à la formation Fidei Donum. Elle est dispensée à l'Institut catholique de Toulouse. Elle est destinée aux prêtres ou religieux venus de l'étranger pour exercer un service pastoral en France. Et elle s'articule autour de diverses thématiques abordées sur un an, lors de 6 sessions différentes. Nous allons découvrir ce parcours et ce qu'il propose avec les 3 invités de ce numéro. Et pour évoquer Fidei Donum, je reçois Marie-Véronique Dupasquier, directrice des études à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Elle est également directrice des études à l'ISSR. J'en dis pas plus pour pas noyer nos auditeurs sous un flot d'acronymes. Elle est venue en compagnie des pères Comi Georges Akladjé et Joseph Nadej Fomoum. Le premier est vicaire de la paroisse de Pamiers. Il est originaire du Togo. Le second est vicaire et aumônier des équipes du Rosaire dans des paroisses du diocèse d'Agen. Il est originaire du Cameroun. Tous deux suivent la formation Fidei Donum cette année. Bienvenue à tous les trois et merci d'avoir accepté de participer à cette émission.
Bonjour.
Bonjour.
Je propose qu'on fasse d'abord mieux connaissance avec vous deux, Père Georges et Père Joseph, avant de nous plonger dans le contenu de la formation et de ce qu'elle vous apporte. Je voulais notamment savoir, et je pense que nos auditeurs seront heureux de le savoir aussi, à quand remonte votre arrivée en France, à l'un et à l'autre, et ce qui vous a décidé à y venir pour y exercer votre ministère de prêtre. Nous allons commencer avec le Père Georges.
Merci. Je suis arrivé en octobre dernier en France. Disons que l'intérêt de ma venue, c'est pour les études à Toulouse, les études théologiques. J'ai été envoyé pour 3 ans autrefois à Rome, où j'ai obtenu ma licence canonique en théologie dogmatique. En 2024, j'étais rentré à Lomé. J'ai passé 1 an, et 1 an après, mon évêque, soucieux de mes études, m'a renvoyé, disons. M'a renvoyé, j'ai atterri là, à Pamiers. D'abord pour service pastoral de quelques années avant de reprendre les études, surtout en doctorat. Je dirais que ce n'est pas ma première fois que j'arrive en France. Je venais déjà depuis 2017, pour les remplacements d'été dans le diocèse de Montpellier, où j'ai rencontré de très bonnes personnes, des prêtres qui m'invitaient chaque année pour ce service. J'avais déjà un contact avec la France. Mais je dirais que le fait d'être là pour un service pastoral continu change la donne. Ce n'est plus venir pour 1 mois et repartir, 1 ou 2 mois et repartir, mais y rester vivre l'hiver, disons toutes les 4 saisons, et avec tout ce que cela a d'un peu d'étranger pour quelqu'un qui vient d'un pays où on a le climat tropical avec un peu de chaleur, un peu de pluie.
La oui, c'est un vrai changement de vie.
Alors, je dirais que, bref, être là en France aussi, c'est une chance, mais c'est aussi un défi par rapport à la culture française. Merci.
Et oui, il faut s'adapter, bien sûr. Père Joseph, donc vous êtes venu du Cameroun. Alors, il y a déjà quelques années que vous êtes arrivé à Agen.
Oui, je suis arrivé à Agen un certain 23 octobre 2023 et j'ai été accueilli à le curé de la paroisse Notre-Dame de Marmande et qui m'a installé. Parlant des circonstances, quand j'étais dans mon diocèse, j'étais à l'éducation. J'ai passé presque les 2/3 de mon sacerdoce actuel dans les salles de classe et comme aussi principal et en même temps directeur diocésain de l'enseignement catholique. Donc l'évêque m'avait appelé un jour et il me disait que le diocèse d'Agen avait besoin d'un prêtre pour des raisons pastorales et que son conseil et lui avaient porté leur choix sur ma modeste personne. Et je lui ai dit, il me faut quand même un temps de réflexion et d'en parler avec ma famille pour voir si je pourrais marquer mon accord à cette proposition. Et alors, 8 jours après, j'ai rencontré l'évêque. Et je lui ai dit, tenant compte de mes promesses d'obéissance d'ordination diaconale et presbytérale, tenant compte aussi de ma devise d'ordination presbytérale, ayant aussi le souci de vivre une autre expérience pastorale, parce qu'avant d'y arriver, j'allais aussi au ministère d'été en Suisse. Donc, j'ai dit, c'était une occasion pour moi de découvrir la France et de vivre d'autres réalités. Et je lui ai dit, je marque mon accord et j'accepte cette mission, surtout qu'il m'avait dit, on t'a choisi pour que tu puisses valablement représenter le diocèse. Donc, comme tu t'en vas, tu es un ambassadeur du diocèse et tout le diocèse compte sur toi.
Vous n'étiez jamais venu en France. Hein?
Je n'étais jamais venu en France.
Mais vous êtes là depuis 3 ans.
Je suis là depuis 3 ans.
Il y a déjà eu une adaptation. Le père Jean, si j'ai bien compris, lui est toujours en cours d'adaptation. Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Lorsqu'on arrive dans un pays comme la France en venant d'Afrique, il y a un choc. Je ne sais pas si c'est un choc, en tout cas, il y a une adaptation culturelle, culture. On découvre les relations entre les gens sans parler de la spiritualité et de la pratique religieuse. Hein. Et puis après, il y a peut-être un choc spirituel de voir ce que c'est que la pratique du christianisme en France par rapport à celle du Togo ou du Cameroun. Comment vous l'avez vécu, vous, Père Georges?
Je dirais qu'au Togo, au niveau de nos cultures, nous vivons ce que nous exprimons, en fait. Et l'homme togolais comme l'homme africain est sensible à certains gestes. Arrivé en France, d'ailleurs pour la première fois en 2017, c'est ce qui m'a d'abord surpris, c'était l'été. J'étais arrivé en août et j'avais ouvert mes fenêtres en plein jour. Le soir, je n'ai pas pu dormir parce qu'il faisait chaud. Puisque je viens de la côte, chez nous, il fait vent. Que ce soit de jour ou de nuit, même s'il fait chaud. Mais là, l'été sans vent, c'était ma première surprise.
C'était étouffant, vous voulez dire.
Oui, c'était étouffant, voilà.
Chaleur écrasante.
Voilà. Et j'ai appris qu'il ne faut pas ouvrir ses fenêtres.
Ah non, l'été non. Fermer les volets.
Il faut fermer les volets, voilà. Et j'ai vécu d'autres choses encore avec les personnes que j'ai rencontrées, très gentilles. Les célébrations ici en France, je dirais, sont plus recueillantes, je trouve. Au-delà,
les gens
parfois,
sont plus recueillis. Sont
oui,
plus recueillis.
Oui, je suppose. Mais
en apparence.
Mais oui, en apparence. Mais je dirais la vitalité, disons,
le fait de dire
la ferveur, oui. Parfois, les chants sont chantés comme aux funérailles. Et c'est parfois,
vous avez l'impression que ce n'est pas un christianisme joyeux, celui qu'on pratique
voilà,
en France.
Voilà. Parce que je me dis, hier, nous avions fêté Saint-Philippe Neri. Oui. On disait de lui qu'il est un saint et fut un saint joyeux. Je crois que le christianisme, c'est aussi, ça porte aussi la joie.
La joie, oui.
Bon, la joie est exprimée de diverses manières, pas des cultures.
Oui, tout à fait.
Et je pense que la France aussi l'exprime d'une autre manière à laquelle je m'adapte. Bon, je veux dire, je m'adapte.
En tout cas, c'est vécu de façon plus spontanée, je pense, chez vous.
Oui,
au Togo,
oui, exactement.
Que chez nous, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Et puis, par exemple, les salutations. Je trouve que, par exemple, pas dans le même presbytère, mais bon, disons, des personnes que tu connais, que tu salues. Chez nous, c'est automatique, en fait. De voir une personne âgée, de la saluer. Ou encore, je ne sais pas, les salutations entre connaissances, mais ici, parfois, on s'ignore. Parfois, quoi.
Vous trouvez qu'on manque d'attention les uns aux autres?
Parfois, je pense.
Ah non, mais vous pouvez le dire, hein, si c'est ce que vous ressentez. Père Joseph.
Oui.
Alors, votre arrivée, le choc culturel, est-ce que ça a été aussi la chaleur étouffante?
À dire vrai, il faut le dire aussi pour apprécier, parce que quand je suis arrivé, les dispositions avaient été prises au sein de la paroisse pour que je reçoive un accueil chaleureux. De telle sorte qu'on était venu me chercher depuis l'aéroport et arrivé en paroisse, il y a les délégués paroissiaux qui m'attendaient. Ils m'ont présenté le presbytère. J'ai échangé avec le curé. Ensuite, ils sont partis. Le lendemain, des gens sont venus me demander ce dont j'avais besoin pour commencer ma pastorale. Et il y a le comptable de la paroisse qui s'était chargé de merder dans les procédures administratives et même pour autre chose. Et vraiment, il y en a aussi qui se sont proposés tour à tour de me conduire dans les chapelles où je devais célébrer. J'ai trouvé ça vraiment très important pour une insertion, une intégration. Vous savez, que ce soit le choc culturel ou le choc spirituel, ce sont des processus normaux. Lorsque
partout,
lorsqu'on change de milieu, on change de cadre et on s'entend aussi, n'est-ce pas, à changer la mentalité, la manière de faire, mais cela ne peut pas se produire sans un choc. Cela se produit donc ici, mais il faudrait déjà se préparer à vivre cela. Nous avons donc des défis à surmonter. Le premier défi, c'est d'abord le climat. Ce n'est pas le même climat. Et il y a aussi le défi culinaire. Ce n'est pas le même repas. C'est aussi un choc. Et comme Georges venait de dire, nous sommes un peu en Afrique, en général au Cameroun en particulier, trop famille. Voyez-vous, parce que quand je suis arrivé, il y avait assez de monde et à 20h, je suis resté seul. C'était quand même un choc. Hein. Et ici, vous avez des gens pendant la messe et quand la messe est terminée, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bon, contrairement en Afrique, peut-être au Cameroun ou le pays que je connais très bien, après la messe, vous avez les gens qui viennent vous rendre visite, vous avez le temps d'échanger. Et même quand vous êtes en paroisse, il y a des visites, il y a des enfants qui viennent jouer. En tout cas, le prêtre n'est pas seul. Alors j'ai compris à travers cela qu'il fallait que je m'habitue déjà à être seul. Et comme j'ai bien dit, que le fait d'être seul est un tueur silencieux. La solitude.
Oui.
Là, il faut se préparer, il faut se armer mentalement. Parce que vous pouvez vivre dans le même presbytère, mais chacun dans son appartement. Nous ne pouvons pas remettre cela en cause parce que je me rends compte que ça entre dans les habitudes des uns et des autres. Et Georges l'a dit, vous savez, nos célébrations sont dynamiques. On sent la ferveur. Et nos églises, que ce soit en ville ou en campagne, sont à 90% pleines de jeunes. Dans ce premier choc spirituel viendrait que lors de ma première célébration à Gondo, je n'ai trouvé aucun jeune. Et la célébration était tellement timide que je me suis posé la question de savoir si je vais pouvoir résister
oui. Et
vivre cela pendant les 3 ans. Mais bon, vous savez, l'appétit vient en mangeant, on s'habitue. Et Dieu merci, nous avons les sessions de formation comme celle-ci qui nous amènent à comprendre que les choses ont changé et qui nous donnent les éléments à pouvoir mieux nous intégrer et à mieux comprendre ce pour qui nous sommes venus porter la bonne nouvelle.
Et il faut faire avec.
Oui. Et il y a aussi un autre choc spirituel, c'est le comportement. Le comportement dans les églises. Nous, quand nous étions encore tout petits à la catéchèse, on nous disait qu'on ne bavarde pas à l'église. L'église, c'est un lieu de prière. Alors, c'est le silence devant le tabernacle. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que même avant la messe, les gens bavardèrent. Et après la messe, même chose. Et l'église paroissiale, elle était ouverte. Les gens se promenaient là-dedans. Souvent, vous êtes en train de prier, vous voyez quelqu'un qui vient, il n'a rien à faire, il tourne là. Alors, je m'adresse donc à la secrétaire. Pourquoi moi? Elle m'a dit non, c'est comme ça. Ce sont des monuments historiques. J'ai donc compris qu'ici, il y a des monuments, c'est-à-dire des églises qui n'appartiennent pas entièrement au diocèse et que c'est la mairie.
Ça appartient aux communes.
Aux communes, oui. Voilà. Donc, c'est aussi ça. Mais toujours soit-il qu'il fallait s'attendre à cela et s'adapter aussi.
D'où l'intérêt de la formation Fidei Donum à laquelle nous venons maintenant, et je vais me tourner vers Marie-Véronique Dupasquier. Depuis quand elle existe cette formation et de quel constat est-elle née? On a déjà, je pense... quelques ingrédients, là,
oui, tout à fait.
D'être dit.
Tout à fait. Alors, ça, en fait, c'est notre 9e année. Voilà, donc on sera à 10 ans l'année prochaine. Cette formation, elle a été construite, on va dire, à partir de la demande des évêques, hein, donc des évêques de la province ecclésiastique de Toulouse, qui voyaient que les prêtres Fidei Donum qui arrivaient, en fait, parfois pouvaient avoir des problèmes pour s'insérer dans les communautés pastorales. Et donc, ils ont demandé à l'IERP de réfléchir à proposer un parcours pour aider ces prêtres à s'insérer et à exercer leur ministère pastoral du mieux possible.
quel que soit le ministère en question, ça peut être curé, ça peut être vicaire, ça peut être
oublié,
ça peut être responsable d'un service aussi.
Oui.
Donc c'est effectivement très large. Quels sont les prérequis pour pouvoir y participer? Parce que bon, d'abord, il y a un nombre de places, c'est pas extensible. Donc vous avez combien de participants chaque année au parcours?
Alors, ça dépend des années. L'année dernière, on avait une grosse année avec 25 participants. Cette année, ils sont 19. Après, je dirais que le nombre de places, en fait, dépend du nombre de places du lieu d'accueil, puisque nous sommes accueillis au séminaire Saint-Cyprien. Cette année,
juste
à côté
de Radio Présence, pour ceux qui ne sauraient pas, à Toulouse.
Ouais. Et cette année, donc, il y avait 19 places disponibles et nous avons eu 19 inscriptions.
Le prérequis principal, c'est d'abord de maîtriser la langue,
tout
je suppose.
Tout à fait, oui. Oui, oui. De parler suffisamment bien français pour comprendre un petit peu les intervenants et puis pour que les échanges, en fait, soient vraiment profitables à tous.
Vous parlez des intervenants. Qui sont les intervenants de la formation Fidei Donum?
C'est très variable. Alors, ça peut être des enseignants de l'Institut catholique de Toulouse, pour quelques-uns. Ça peut être des prêtres français en paroisse, en France, donc dans la province ecclésiastique, de tout, un peu tous les diocèses où sont accueillis les prêtres Fidei Donum. Il y a aussi quelques laïcs, soit responsables de services diocésains, je pense à la catéchèse, par exemple, ou d'autres du diocèse de Toulouse, au niveau de l'économat, par exemple, voilà. Il y a aussi quelques religieux qui interviennent, chacun selon son, on va dire, sa spécialité, entre guillemets.
Quels sont les principaux axes de cette formation et ses principaux objectifs? C'est-à-dire qu'une fois que les étudiants ont suivi tout le parcours, les 6 sessions, on va en parler bien sûr dans le détail, qu'est-ce qu'on espère qu'ils auront appris, qu'ils auront intégré?
Alors, je ne sais pas s'il faut parler d'apprentissage ou de formation, c'est plus un parcours pour leur présenter finalement les différences entre une vie de prêtre en France et la vie de prêtre qu'ils ont pu avoir chez eux. C'est vraiment, donc on ne va pas mesurer des apprentissages. Après, alors moi je suis présente, j'essaye d'être présente à toutes les sessions, mais pas pendant tous les temps. Je mesure aussi par nos échanges, en fait, j'allais dire les progrès, les adaptations des prêtres présents, des participants aux formations.
Le principal axe, pourrait-on dire, c'est leur apprendre à se situer, ou qu'ils puissent se situer dans la société française et aussi au sein de l'Église française.
Oui, tout à fait. Qu'ils tiennent leur place de prêtre, et pleinement cette place, dans la société française, où parfois, peut-être faut dire souvent, pour certaines personnes, un prêtre, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et je pense que là, c'est une des différences quand même avec vos pays d'origine.
Oui.
La place du prêtre n'est pas du tout la même, je pense, dans la société française et dans les sociétés togolaises ou camerounaises.
Et même en France, elle n'est plus la même que celle qu'elle a pu être il y a 50 ou 60 ans.
Tout à fait.
Il y a ça aussi. Oui, oui. Et je pense que là, il y a une évolution aussi très, très importante. L'autre question, sans doute pour eux, qui est peut-être la plus compliquée à intégrer, c'est l'histoire, c'est la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité dite à la française? Alors, je rigole toujours quand j'entends laïcité à la française, puisque c'est une invention française de toute façon.
Oui, c'est vrai que c'est très différent. J'ai une de mes filles qui est partie en Allemagne et voilà l'image qu'elle a eue dans le land où elle était, parce que ça dépend aussi beaucoup des landes en Allemagne, de l'église, c'était pas du tout la même que l'église en France. C'est clair, la laïcité à la française, alors c'est vrai que c'est un thème qu'on aborde dès la première session, parce qu'il y a des choses quand même à vraiment connaître, qui sont vraiment spécifiques à la France.
Après toutes ces premières précisions, nous allons faire une pause dans cette émission comme d'habitude. Puis ensuite, les pères Georges et Joseph nous feront part de leur expérience d'étudiants qui suivent la formation Fidei Donum. En attendant, nous écoutons le credo de la Missa Luba, la messe congolaise.
Oh,
Église, Éric Dupri.
Nous revoici pour la seconde partie de Vivante Église. Je retrouve les trois invités de cette émission. Marie-Véronique Dupasquier, directrice des études à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, l'Institut catholique de Toulouse. À ses côtés, les pères Comier Georges Akladjé et Joseph Nadège Fomoum, respectivement vicaires de la paroisse de Pamiers, et vicaire et aumônier des équipes du Rosaire de plusieurs paroisses du diocèse d'Agen. Je rappelle que vous êtes originaire du Togo pour le père Georges et du Cameroun pour le père Joseph. Vous suivez tous les deux la formation Fidei Donum, destinée aux prêtres religieux venus de l'étranger pour exercer un service pastoral en France. Nous avons présenté les grands axes et les objectifs de cette formation en première partie d'émission. L'un et l'autre, dans le parcours que vous avez suivi jusqu'alors, parmi les sessions auxquelles vous avez assisté, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce que vous avez appris qui vous est utile aujourd'hui pour exercer votre ministère dans vos paroisses, Père Georges?
Je dirais, pour ce qui me concerne, que j'en apprends à chaque session, de nouveau sur la France en général, et sur l'histoire de l'Église de France. C'est une histoire particulière en fait, à part entière, et son histoire avec l'État, et tout ce que la laïcité impose aux prêtres, disons à l'Église, en France aujourd'hui. Et non seulement ça, en nous rentrant aussi dans la célébration, par exemple, des sacrements, de voir comment est-ce que nous pourrons approcher les sacrements, les relations qui doivent s'imposer, non seulement entre prêtres, mais aussi entre prêtres et laïcs, et aussi jeunes et enfants. Ou encore, les relations avec les personnes à mobilité réduite, je ne veux pas dire handicapé, m'excusez.
Vous avez bien intégré comment on doit s'exprimer en France.
Non, en fait, juste pour ouvrir une parenthèse, en prêchant un jour, quand j'étais de passage pour le remplacement d'été, dans mon homélie, je disais les vieux, les vieilles. Alors, le curé, à la fin de la messe, a repris la parole pour dire, mais pardon, il ne voulait pas dire les vieux, il voulait dire les personnes âgées. Donc, j'ai compris que si nous parlons dit les vieux, les vieilles, mais bon, quand on rentre dans un autre contexte, il faut quand même s'intégrer. Il ne s'agit pas pour moi, en suivant cette formation, je ne veux pas dire, ce n'est même pas l'objectif de cette formation. Nous apportons notre richesse aussi, mais nous n'allons pas transformer ce qui est déjà la richesse que l'Église de la France a. Nous venons nous intégrer, je viens m'intégrer, c'est ce que je comprends. Je m'intègre déjà à la machine bien huilée qui est en place et je continue le fonctionnement. Le souffle de l'Église de France que nous voyons aujourd'hui, pas plus que la Pâque dernière, on s'est écrié sur le nombre des baptêmes, les confirmations qui ont suivi à la Pentecôte et d'autres qui viendront. Il y a un souffle que l'Église de France porte, auquel je m'intègre aussi en tant que prêtre, en promettant obéissance à mon évêque d'origine. Le contrat qui me lie à l'évêque de Pamiers, c'est aussi cette même promesse d'obéissance. Et cette obéissance va jouer sur mon intégration totale et complète à l'Église de France. Je voudrais juste dire ceci pour terminer, c'est que à chaque session, je remercie en passant Marie-Véronique et tous ceux qui interviennent, tous les intervenants, pour ce qu'ils nous apportent. C'est précieux. À chaque fois, ils piquent notre intérêt pour le sujet qu'ils viennent exposer. Et cela signifie que nous aussi, personnellement, dans nos lieux de travail, dans nos paroisses, on a ces situations, on vit les situations. Et chacun s'adapte à qui met mieux. Je dirais, quand on s'ouvre, quand on a un esprit ouvert, vraiment, on crée de nouvelles choses et on s'enrichit soi-même. Alors, moi, c'est mon expérience personnelle que je fais à cette session. On va terminer dans ces deux jours et je crois en apprendre davantage.
Merci, Père Georges. Père Joseph, alors comment vous les avez vécu ces jusqu'alors 5 sessions du parcours Fidei Donum? Il en reste une que vous allez suivre ces jours-ci. Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça a pu changer aussi dans votre relation à la France et aussi aux gens que vous croisez dans vos paroisses?
L'évêque d'Agen, qui m'a envoyé suivre cette formation, m'a posé la même question. Et je répondais en disant que la formation de Toulouse, c'est le carrefour du donner et du recevoir. Par la qualité des intervenants, et aussi la pédagogie de transmission, qui est beaucoup fondée sur le dialogue, les échanges. Et cette manière de faire a pour objectif de faciliter, de nous donner des éléments pour mieux nous intégrer dans la société française, dans l'Église de France, et mieux nous comporter vis-à-vis de certains actes et gestes que nous posions souvent chez nous, sans que cela n'ait, n'est-ce pas, un écho négatif. Et donc, je trouve que vraiment, cette formation vaut la peine. Cependant, il faudrait aussi que l'on puisse associer à cette formation les pères qui nous accueillent. Parce que l'archevêque est passé, il nous a parlé de la liturgie, tel est passé, il nous a parlé de l'interculturalité, et tel autre est passé. Il y a des éléments que nous avons reçus ici, mais qui se pratiquent autrement dans les paroisses. Et vous savez, le vicaire ne fait que ce que lui demande son curé. Tous, nous le savons. Donc, nous ne sommes pas là pour faire une pastorale de la révélation, de l'apocalypse, pour venir tout changer. Mais nous sommes tout simplement là pour donner et recevoir. J'ai été frappé agréablement par un module, c'est-à-dire la catéchèse spécialisée. Parce que Georges est d'accord avec moi, nous n'avons pas cette catéchèse chez nous. Là, j'ai donc compris que quelque part, quel que soit ce que l'on peut dire de l'Église de France, il y a quand même un souci maternel de cette Église d'intégrer dans le peuple de Dieu des personnes à mobilité réduite ou les personnes qui souffrent d'un handicap. Vous voyez, et que les gens sont formés pour transmettre la catéchèse. Or, qu'est-ce qui se passe chez nous? On les baptise comme ça, ce sont les laissés pour compte. Mais ici, quand même, ce souci m'a frappé, beaucoup frappé. Et ce qui m'a un peu frappé et qui nous fait peur, je pense que mon confrère et moi, il peut confirmer ce que j'ai dit, c'est le rapport entre homme et femme.
Ah, ça c'est une question que j'allais vous poser, mais vous faites bien d'aborder.
Et le féminin. Voyez, les actes qui sont anodins chez nous deviennent des actes graves. Comment donc ce pauvre Africain ou Camerounais qui est arrivé, qui était habitué à poser ces actes-là, qui étaient presque insignifiants, devrait désormais se contenir pour ne plus les poser. Alors, il faut donc un travail mental, un travail sur soi-même pour pouvoir répondre aux attentes. Parce que ce que peut sembler anodin chez vous peut avoir une autre connotation ici. Donc, j'ai suivi attentivement ce module-là et ça m'a fait peur et je me suis dit, l'homme est la mesure de toutes choses. Il me faut maintenant m'ajuster et comprendre qu'il y a des actes qu'on ne peut pas poser en France.
Des paroles qu'on ne peut pas
des
tenir.
Des paroles qu'on ne peut pas tenir. Et quand nous avons fait l'homélétique avec le père Émeric, nous avons aussi un autre choc, hein, un défi du temps. L'homélie plus de 10 minutes, non. Mais chez nous, ce n'était pas ça. La messe durait 1h30. C'était bien chanté, comme nous venons d'entendre le credo congolais. C'était bien chanté, il y avait des instruments. Mais ici, quand même, il faut dire l'essentiel. Donc, il faut avoir un esprit de synthèse.
Synthèse, oui.
Conséquemment, ça nous met au travail. De dire en peu de mots, en peu de temps, ce que l'on peut dire ailleurs, en plusieurs phrases, et utiliser assez de temps. Mais je crois que cette formation, elle a bienvenue. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Marie-Véronique, le Père Méry et tous les intervenants, et de remercier aussi les évêques qui ont créé cela et qui nous permet maintenant de nous armer pour pouvoir affronter les défis pastoraux de l'Église et même de la société française.
Et en vous écoutant tous les deux, c'était vraiment intéressant. J'ai l'impression que c'est une vraie stimulation intellectuelle aussi pour vous, ces formations.
Oui, tout à fait. Oui.
Ça vous remet aussi en question, ça vous oblige à chercher, à comprendre aussi les gens qui sont autour de vous.
Oui.
Donc c'est une stimulation aussi humaine dans le relationnel.
Effectivement. Oui. Vous savez, tout ce qui est formation est important dans la mesure où on gagne toujours quelque chose à connaître. Et nul ne peut prétendre avoir, n'est-ce pas, le monopole de l'intelligence et de la sagesse. Un auteur disait, connaître, c'est être plus. A contrario, ne pas connaître, c'est être moins. On ne cesse pas d'apprendre. Il y a des choses que nous savions, mais quand nous sommes arrivés, nous le savions tout simplement sur le plan académique, mais la pratique aussi. Moi, je crois que cette formation est très bien, tant sur le plan intellectuel que sur le plan pastoral et même sur le plan humain.
Et en plus, comme vous disiez, il y a vraiment du dialogue entre les intervenants et vous, les étudiants. C'est-à-dire que vous pouvez poser toutes les questions
que
vous voulez.
Oui,
et vous avez toutes les réponses que vous attendez.
Oui, même si on n'a pas...
Même si on ne se met pas d'accord.
Ça, c'est autre chose.
On n'a pas toutes les réponses.
Mais
il y a des situations toujours un peu discutables. Donc, on les exprime à qui mieux. On n'a jamais fini d'apprendre et on continue d'apprendre.
Oui.
On dit souvent « vérité en deçà des Pyrénées », erreur de là. On a peut-être chez nous, on pense avoir bien fait. Peut-être qu'on vient ici, on apprend de nouvelles choses. Ou encore, on a appris des choses au séminaire, on est devenu prêtre. Et on les a peut-être appliquées entre temps. Mais ici, ça devient...
Ça s'applique autrement.
Ça s'applique autrement, voilà. Voilà. Avec tout ce que
avec
ça
compte. Avec...
La mise en pratique n'est pas la même.
Ah oui, voilà.
Et c'est aussi que j'ai appris qu'on dit la laïcité à la française.
Oui, oui voilà, alors c'est, le terme est toujours un peu troublant, effectivement.
La laïcité, c'est pas, on ne la vit pas de la même manière ici.
Alors, je vais donner quand même les intitulés des 6 sessions donc de ce parcours, de cette formation Fidei Donum. La première session, c'est « Vivre en France ». Alors, entre autres, à l'intérieur, il y a des thèmes comme l'interculturalité, comment se situer quand on vient d'ailleurs. Il y a l'histoire des relations entre l'Église et l'État, et puis la laïcité en France. La deuxième session, c'est le prêtre et son ministère pastoral. Donc là, je pense que c'est très pratique pour vous. Qu'est-ce que c'est que le métier de curé en France? Quelle est la mission en co-responsabilité entre les prêtres et les laïcs? Comment on célèbre la messe, l'homélie dans un contexte français? C'est ce que vous évoquiez, Père Joseph. La troisième session, c'est la société française et la famille, avec les nouveaux défis de la pastorale en France. La quatrième session, c'est l'annonce de la foi, le catéchuménat des adultes en France. Vous avez pu remarquer, je pense que par rapport à vos pays d'origine, vous pouvez trouver ça modeste, mais nous, en France, on voit ce boom du catéchuménat des adultes, des jeunes adultes dans notre pays. Et il y a aussi, donc, le sujet est abordé de la formation permanente des laïcs, la question de la synodalité. Cinquième session, c'était le personnes et relations, analyse théologique des pratiques pastorales de l'Église, paroisse, communication et médias. Et puis, les rapports hommes-femmes et masculins-féminins en France. Alors ça, je pense que on parle de choix culturel, ça a dû l'être pour vous, c'est ce que nous disait le Père Joseph. Et donc la 6e session que vous suivez ces jours-ci, c'est évangéliser aujourd'hui en France. Donc il y a la question de l'interreligieux. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense que dans vos pays, Vous avez aussi des communautés qui ne sont pas chrétiennes, notamment des communautés musulmanes. Comment ça se passait au Togo et au Cameroun et comment ça se passe en France? Est-ce que vous voyez de grandes différences dans les relations entre chrétiens et musulmans, Père Georges?
Au Togo, c'est vrai qu'on n'a pas une majorité de musulmans. Ils ne sont pas non plus minoritaires, mais avec l'Église, c'est quand même la bonne entente. Quand aujourd'hui, par exemple, ils fêtent la Tabaski, les prêtres ou encore l'évêque, ils se rendent à leur mosquée, à la mosquée principale, ils prient avec eux. Parfois, on leur offre aussi des moutons à tuer. Après, eux aussi participent aussi à nos célébrations, pas toutes les célébrations, mais à des célébrations majeures où on les invite. On a des discussions sur quand même le développement du pays. Parfois, ça porte fruit, parfois non, parce que quand le politique rentre dedans, ce n'est pas toujours évident. Mais en général, c'est quand même la paix entre l'islam et les chrétiens.
Une relation pacifiée.
Pacifique, oui.
La cohabitation pacifique. Oui.
Et c'est pareil au Cameroun, Père Joseph, comment ça se passe, les relations entre l'islam et le christianisme, entre chrétiens et musulmans?
Au Cameroun, je pense que nous avons un État laïque, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État. Et le Cameroun est à 60% chrétien, c'est-à-dire catholique et protestant, et 18% du côté du Nord, musulmans, et le reste, ce sont des animistes.
Animistes, oui.
Oui. Et au sein de la conférence épiscopale, il faut d'abord signaler qu'au Cameroun, la cohabitation est pacifique. Hein. Nous avons des musulmans qui sont dans nos collèges, dans nos écoles, et qui participent à la messe selon le règlement du collège. Il n'y a pas de problème. Au niveau de la conférence épiscopale, il y a une commission nationale du dialogue interreligieux qui permet, n'est-ce pas, de dialoguer avec les musulmans, de traiter les problèmes bioéthiques et les problèmes moraux aussi. Ils se mettent ensemble pour donner leur point de vue par rapport à la position du gouvernement. Il y a aussi la Commission nationale de l'écuménisme avec les autres chrétiens. Donc, cette cohabitation est vraiment pacifique. Il n'y a pas de guerre. C'est d'autant plus que vous pouvez trouver dans une famille les uns qui sont chrétiens et les autres qui sont musulmans, dans une même famille et même dans la même fratrie. Parce que c'est la liberté des religions.
Et quand vous voyez comment ça se passe en France, pas toujours très simple les rapports entre musulmans et chrétiens, ou musulmans et non-musulmans, est-ce que vous avez l'impression qu'on ne sait pas s'y prendre en France?
Je ne voudrais pas faire un procès d'intention. D'ailleurs, je suis très mal passé pour le faire. C'est d'autant plus que je n'ai pas assez d'arguments pour pouvoir bien parler de cela. Mais je me dis tout simplement, cela dépend de la culture. On dit le point de départ pour justifier le point d'arrivée. Voyez-vous, il y a aussi cette fierté hein, de la France qu'on disait d'elle qu'elle est la fille aînée de l'Église catholique. Ça peut frustrer lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une certaine religion qui viendrait peut-être leur enlever, n'est-ce pas, ce nom ou cette qualité de fille aînée. Mais je pense que depuis que je suis là, je n'ai pas... À maman, nous avons des musulmans. Aujourd'hui, c'est la Tabaski. Et comme il vient de dire, chez nous, au Cameroun, aujourd'hui, c'est férié. Mais à maman, je vois, on m'a dit que les musulmans ont le droit de demander une permission pour aller célébrer. Mais je pense que dans le fait et dans la pratique, il y a une certaine cohabitation. Cependant, ne faisons pas appel à ces fondamentalistes. Vous voyez, qui voudraient, n'est-ce pas, au nom d'une certaine loi, imposer la religion. J'ai toujours dit aux gens qu'une religion ne s'impose pas. Si elle s'impose déjà, c'est qu'elle met en mal la liberté des religions. Et pour adhérer à une religion, on adhère par le cœur. On propose. Ça, c'est d'abord la règle fondamentale de la théologie fondamentale. La religion se propose, elle ne s'impose pas. Donc si on commence déjà à l'imposer, automatiquement, ça va entraîner des conflits inutiles. Mais quand on parle de religion, ne faisons pas appel au côté négatif des fondamentalistes et bien d'autres personnes. Mais il y a cohabitation pacifique au Cameroun.
On arrive au terme de cette émission et je vais laisser le mot de la fin à Marie-Véronique Dupasquier. Juste faire un bilan de presque 10 ans de Fidei Donum. Quel bilan vous pouvez en tirer? Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment une formation qui apporte beaucoup à tous ceux qui la suivent?
Pour ma part, c'est ma deuxième année, en fait, puisque j'ai repris la formation l'année dernière. Mais rien que sur 2 ans, je vois, en fait, Les prêtres qui arrivent au début en septembre, en particulier ceux qui arrivent juste en France, certains commencent le parcours. Enfin, là, on en a eu, ça faisait 15 jours qu'ils étaient arrivés. Ils avaient à peine atterri, j'ai envie de dire. Et je vois la différence après. Et quand je les écoute parler aujourd'hui, mais je me dis que... Alors, c'est peut-être qu'ils sont très bien. Mais je me dis que oui, ils ont vraiment compris des choses. Alors, surtout, moi, ce que je veux dans ce parcours, et ils l'ont dit, c'est vraiment entrer en dialogue avec les participants, parce qu'ils apportent aussi plein de richesses. Ils savent plein de choses.
Bah, les questions qu'ils posent peuvent aussi faire évoluer la formation elle-même.
Hein. Voilà, tout à fait.
Peut-être que ce soit des points auxquels vous n'aviez pas pensé.
Tout à fait. C'est un petit peu ce que je fais quand je reprends le contenu de la formation d'une année sur l'autre. Donc, je pense effectivement que cette formation est vraiment riche et utile pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir la suivre.
Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment à tous les trois d'être venus présenter la formation Fidei Donum à nos auditeurs. Merci au Père Georges et au Père Joseph d'avoir partagé avec nous leur expérience d'étudiant et leur expérience de prêtre au diocèse de Pamiers et d'Agen. Je signale que Fidei Donum est présenté dans le détail sur le site web de l'Institut catholique de Toulouse, www.ict-toulouse.fr. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous de rester fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.